Et bienvenue à cette émission des Héros Anonymes. Alors, cette semaine, encore une fois, deux organismes qui vont être mis de l'avant. Et le premier que j'ai le plaisir de vous présenter, c'est un nom qui est dans le paysage canadien depuis belle lurette, même dans le paysage québécois, la Société John Howard. Et pour ce faire, on va discuter avec Jean-Claude Bernheim, président du Conseil. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Grand plaisir de vous recevoir. La société John Howard, c'est une société, je pense qu'elle est au Canada là, depuis les années 1800, au Québec, peut-être plus récemment dans le début des années 80. Commençons par le commencement, si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est que cette société?
Bien, la société John Howard du Québec, comme les sociétés John Howard au travers du Canada, travaille pour s'assurer, dans la mesure du possible, d'aider les personnes qui sont vraiment, au bout du rouleau quand ils sortent de prison.
OK.
Pour un certain nombre d'entre eux.
Et ces sociétés-là, on comprend bien le bien fondé, parce que j'imagine que lorsqu'on sort d'un établissement de détention après, disons, quelques années, la vie a continué pour la société autour, pour nous, pour les gens qui ont été incarcérés, j'imagine que la vie prend un autre rythme. Je peux malheureusement pas dire, là, j'ai pas expérimenté. À quoi font face comme défi les gens qui sortent justement, là, vous parlez de prison, à quoi ils font face finalement quand ils sortent de ces établissements-là?
Bien, pour un grand nombre, c'est d'abord en sortant de prison, trouver un lieu pour se lever.
Oui, le minimum, hein?
C'est le minimum, c'est le point de départ. C'est sûr qu'il y a plusieurs structures, des maisons de transition, par exemple, il y a d'autres structures disponibles, mais pour un certain nombre d'entre eux, de réintégrer la société, de se trouver un endroit pour se loger, ça devient extrêmement difficile quand ça fait des années que vous n'avez pas eu à prendre soin de votre propre personne, à avoir des responsabilités par rapport à votre propre personne. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que la majorité des personnes qui se retrouvent en prison sont des gens qui ont, en général, peu d'instruction, peu de formation, peu d'expérience de travail, et qui, par le fait d'avoir été incarcérés pendant un certain nombre d'années, ont développé des habitudes de passivité, dans le sens que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas de responsabilité par rapport à leur vie personnelle quotidienne, mais aussi parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de développer des rapports interpersonnels avec d'autres personnes. Ils sont dans un milieu qui est très contrôlé, il y a plein de normes, il y a toutes sortes de rapports qui s'établissent entre les détenus eux-mêmes, entre certains groupes de détenus, entre les détenus, le personnel, et tout ça dans la perspective éventuelle d'une libération. Donc, c'est des situations psychologiques et contextuelles très difficiles à vivre, et au moment où la personne se trouve à être libérée, bien, se trouve devant un inconnu, comme il a été devant l'inconnu la première fois qu'il a été incarcéré.
Ben oui, certainement. Et j'imagine, vous me parlez un peu du portrait type là, des gens lorsqu'ils sortent de détention. Est-ce qu'il faut comprendre finalement qu'ils ont peut-être plus ou qu'ils n'avaient peut-être même pas avant d'être incarcérés, un réseau de soutien et de support? Parce que le premier réflexe, j'imagine qu'ils peuvent aller quand même chez des parents, chez des membres de la famille. J'imagine que la détention doit aussi fragiliser déjà des liens qui n'étaient peut-être pas si présents. Est-ce que c'est une des réalités auxquelles ils font face?
Bon, je dirais, pour ce qui est des liens avant l'incarcération, bien, je dirais qu'ils sont comme la moyenne des gens, là,
okay.
Plus ou moins harmonieux, si on veut, avec la famille, là, avec la réalité d'une famille. Mais l'incarcération, effectivement, surtout si elle dure longtemps, crée une rupture. Des fois, les pénitenciers les prisons sont très éloignées.
Ouais.
Les personnes n'ont pas les moyens de rendre visite. Les téléphones ou l'accès au téléphone sont très contrôlés, sont coûteux. Les obstacles pour le maintien de la relation avec le réseau familial et le réseau social, il n'y a rien là qui va vraiment supporter de manière pérenne ce type de rapport. Alors, effectivement, quand les gens sortent, Souvent, ils n'ont pas de réseau social, ils n'ont plus de réseau social. Les relations avec la famille sont peut-être plus ou moins accessibles, compte tenu du délit commis, parce qu'il faut bien comprendre que les préjugés qu'il peut y avoir par rapport aux détenus sont partagés par les membres de la famille aussi.
Oui.
Donc, il y a toute une nouvelle situation auquel la personne est confrontée. Alors, comment reprendre contact avec la famille, comment rétablir éventuellement des contacts, pouvoir se réinsérer encore. Tout ça, ça prend du temps. Tout est une question vraiment de temps. Et c'est là que la société John Howard intervient dans la mesure de nos ressources, de nos moyens. C'est qu'on essaie d'offrir un hébergement à un certain nombre de personnes pour qu'ils puissent prendre le temps de faire le point, de voir quelles sont leurs situations, comment se réinsérer, quelles perspectives envisager et quoi faire pour pouvoir envisager la perspective qu'ils ont. Donc, on va tout faire pour leur permettre de reprendre une autonomie personnelle, de reprendre le contrôle de leur vie en leur aidant ou en leur donnant accès à des ressources sociales comme le bien-être social ou comme de récupérer sa carte d'assurance maladie ou aussi les aider à accéder à un certain nombre de ressources compte tenu de leur situation, s'ils ont des problèmes de santé physique, mentale, s'ils ont un désir de retour aux études ou de travailler, s'ils ont une certaine expérience ou s'ils veulent en acquérir une. Donc on essaye d'être le pont entre la personne, ses besoins et ce qui est disponible dans la société, tout en ayant à l'esprit que tout ça prend du temps. Et c'est pour ça que les personnes qu'on héberge, on ne leur impose pas de limite de temps. Mmh. Ils peuvent y rester dans notre hébergement tant et aussi longtemps qu'ils ont un minimum d'efforts fournis pour s'intégrer, pour aller au-devant de leurs propres besoins. Et puis, ce qu'on constate, c'est qu'après quelques mois, des fois une année, des fois 18 mois, bien la personne a réussi à reprendre confiance en elle, récupérer ses papiers, entamer des démarches. Puis là, elle se sent en mesure de se trouver un hébergement privé, personnel, autonome. Et dans cette situation-là, bon, on est vraiment très content parce qu'on peut considérer ça comme un succès.
Bien, certainement. Et dans une société dans laquelle, on peut parler pour toutes les sociétés, mais je pense qu'au Québec, notamment, on a évidemment un biais défavorable aux personnes qui ont été judiciarisées. J'imagine que de signer un bail lorsqu'on n'a pas un historique de location dans les dernières années, lorsqu'on a un vide dans le CV dans les dernières années, parce que c'est pas vraiment une expérience de travail qu'on met de l'avant, ça doit être des défis quand même substantiel là, pour ces personnes-là qui sortent de prison. Vous, comme société John Howard, est-ce que vous avez un rôle aussi d'éducation, de sensibilisation auprès des propriétaires, auprès des employeurs? Comment vous contribuez à amener les esprits un peu ailleurs?
Bien, on va surtout s'orienter vers l'hébergement. Pour ce qui est du travail, il y a des organismes spécialisés.
OK, il y a des ressources pour ça.
C'est ça. Mais pour l'hébergement, ce que nous, on fait, c'est qu'on a une banque de propriétaires qui se disent prêts, éventuellement, compte tenu de la personne, à lui offrir un logement. Mmh. Et nous, en contrepartie, on leur assure qu'il va y avoir un certain suivi. Parce que quand les personnes quittent notre hébergement, on ne leur dit pas « bonjour, c'est fini, on ne veut plus vous voir ouais. ». On leur dit bien qu'ils peuvent nous contacter tant et aussi longtemps qu'ils le veulent. Et puis, quand c'est une situation où il y a un propriétaire qui est peut-être un peu insécure, bien, on va lui dire « nous, on est prêts à assurer un certain suivi, à être présent, à répondre à vos questions, faire le lien entre la personne qui entre dans l'hébergement, dans le logement et le propriétaire, en lui donnant des informations, en lui donnant, un peu un soutien si besoin est. Et on constate que dans plusieurs cas, ça permet justement à ces ex-détenus de se retrouver un logement et de pouvoir commencer à établir un lien de confiance avec un propriétaire, à reprendre leur propre vie en main.
Wow! Et dans les dernières années, puis on a vu des chiffres, là, le taux de criminalité n'a pas diminué. Puis, bon, je prends l'exemple de la criminalité, mais on s'entend, là, la criminalité, là, c'est pas. Puis les détenus et les gens qui sortent de prison, c'est pas tous des gens qui ont commis des meurtres, là, on s'entend. Mais la criminalité a augmenté. Est-ce que ça a un impact sur vos opérations? Est-ce que vous avez plus de gens qui viennent cogner à vos portes d'année en année? Parce que j'imagine que s'il y a plus de criminalité, il y a plus de sentences, il y a plus de détenus et ultimement, ben, il y a plus de gens qui sortent de prison. Est-ce que vous avez un effet d'entraînement dans tout ça?
Disons qu'on ne peut pas vraiment le constater dans le sens que bon, le taux de criminalité a commencé à augmenter il y a seulement quelques années.
Oui, le temps qu'ils fassent leur peine, moi, j'avoue. Hein.
Non, mais je veux dire, la criminalité a baissé au début des années 90 jusque dans les années à peu près 2015. Puis depuis ce temps-là, il y a des fluctuations vers la hausse. Donc, il y a eu une baisse considérable de la population carcérale pendant ces années. Maintenant, pour ce qui est des appels qu'on peut recevoir, on ne voit pas vraiment de différence parce que malheureusement, on n'est pas capable de suffire à la demande. Il y a plus de demandes auxquelles on est capable de répondre. Donc, on est confronté au fait de devoir faire des choix, parce que quand l'hébergement est plein, il y a des personnes qui pourraient y aller, mais on n'a pas de place. Donc, on ne coupe pas les liens non plus avec la personne, mais c'est sûr qu'un soutien psychosocial sans hébergement, c'est vraiment difficile à maintenir longtemps, souvent, parce que la personne ne voit plus l'intérêt d'être suivie par quelqu'un, essaie éventuellement de se trouver une autre solution, puis bon, on n'en entend éventuellement plus parler.
Non, je comprends, effectivement, lorsqu'on n'arrive pas à se stabiliser, j'imagine que c'est dur de voir... En tout cas, du moins en logement, c'est dur de voir la suite des choses puis de voir bien, à quel point cet investissement-là, finalement, va créer quelque chose. Vous êtes président du conseil de la Société John Howard. Avant qu'on prenne une courte pause, j'ai goût de savoir, M. Bernard, mais qu'est-ce qui vous a attiré vers ça? Parce que défendre les droits des détenus, c'est une chose, s'assurer de la dignité, du respect des droits de tout le monde, c'est une chose, mais vraiment de vouloir contribuer à finalement ce que leur société, leur retour en forme de vie civile, finalement, se passe le mieux possible. Qu'est-ce qui vous a interpellé pour que de votre temps, ben, vous en donniez à la société John Howard?
Bien, c'est que défendre les droits des détenus ou des personnes en général, disons, c'est une approche, je dirais, intellectuelle, entre guillemets, ou même ça peut être des revendications d'un certain ordre. Mais en arrière de ces démarches, il y a aussi la réalité de personnes physiques, des personnes qui sont dans ces situations-là de vulnérabilité. Alors, j'essaie de concilier la, entre guillemets, théorie des droits et du respect des droits, de la reconnaissance des droits, versus les besoins au quotidien auxquels les personnes sont confrontées. Et c'est la société John Howard est sur le terrain. Et c'est dans ce sens-là que j'y trouve un intérêt, une satisfaction, parce que malgré nos ressources limitées, on vient en aide à des personnes. On voit les résultats que ça donne. Par exemple, parmi nos employés, on a des pères aidants, donc des personnes qui ont connu la prison, qui sont des employés et qui vont être un lien avec les personnes qui sortent de prison, avec les personnes qu'on héberge. Ça va donner une chance à une personne d'avoir un emploi, mais en même temps, de pouvoir montrer que c'est pas parce qu'on a été en prison qu'il ne se passera plus rien, que la vie est terminée, que c'est que des difficultés. L'expérience des pères aidants va montrer, et eux ont, disons, la capacité d'établir un certain rapport de confiance différent que ce que les intervenants peuvent établir, qui fait que ça crée tout un contexte. Et moi, c'est ça qui m'anime, c'est de voir que des personnes qui sortent de prison avec un horizon plutôt fermé. Après quelques mois, sont tellement ouverts, radieux. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a beaucoup d'obstacles à surmonter, mais on voit qu'il y a une progression. Et que cette progression, elle se gagne, elle s'acquiert petite étape par petite étape. Et de fonctionner dans un organisme où il n'y a pas de précipitation. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour pouvoir dire on a épargné tant de personnes dans l'année. On est là pour dire on a réussi à réintégrer dans des logements privés tant de personnes. Et ça peut pas, c'est pas nécessairement des chiffres astronomiques, mais ce sont des résultats très concrets. Et c'est dans ce sens-là que je me sens personnellement investi.
Bien, vous faites certainement œuvre utile, en tout cas. Jean-Claude Bernheim, président du conseil de la société John Howard, si vous voulez bien, on va prendre une courte pause, puis on poursuit cet échange-là super intéressant sur votre intérêt, sur ce que vous faites, mais également sur ce que la société fait.
Merci.
Et vous êtes de retour à l'émission Les héros anonymes avec Jean-Claude Bernheim, président du conseil de la société John Howard au Québec. On a parlé, bon, évidemment, de ce que fait la société John Howard en première partie de l'émission, et tout ça nous ramène un peu à ce qu'on en pense comme société, comme collectivité des ex-détenus. Puis vous êtes un organisme de bienfaisance, donc j'imagine que vous appuyez un peu sur les dons des gens. J'ai goût de vous demander, mais qui donne à une cause pour aider les ex-détenus? Puis je vous demande ça, là, je grossis un peu ma question, mais c'est volontaire, là, mais qui va bien donner à une cause comme ça?
Ben oui, c'est assez étonnant. C'est en général des gens assez modestes, mais à l'occasion aussi, il y a des personnes un peu mieux nanties ou des organisations un peu mieux nanties qui nous donnent un coup de main. Mais évidemment, c'est relativement peu par rapport au budget qu'on a, par rapport aux besoins. On est essentiellement financé par les CIUS.
Ah oui, avec le PSOC, là, j'imagine, le programme de soutien aux organismes communautaires?
Non, on n'a pas encore réussi à être membre du PSOC.
Ah bien, je vous le souhaite.
On travaille fort. donc, c'est les CIUS essentiellement qui nous financent et, bon, nous donne vraiment le nécessaire. Mais il y a un manque, c'est au niveau matériel. Quand une personne quitte notre hébergement, elle va se retrouver à pouvoir entrer dans un logement, bien, il faut meubler le logement.
Ouais.
Et les gens ont relativement peu d'argent. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de les aider minimalement pour se meubler convenablement. Donc, c'est dans ce sens-là que les aides qu'on reçoit de la part de membres du public, eh bien, c'est là qu'est affecté l'argent.
Bien, je comprends tout à fait. En tout cas, j'espère qu'on aurait réussi à en sensibiliser certains. Mais c'est sûr que la question mais une des questions qui me vient en tête, c'est ben oui, ça arrive là, des fois dans notre parcours de vie qu'on s'enfarge, disons, les pieds, puis qu'on peut peut-être se retrouver là, dans une situation qui doit être judiciarisée. C'est une chose, puis on dirait que malgré toute ma grande vertu, mon père a été incarcéré plusieurs fois et je l'ai vu en centre de détention plusieurs fois quand j'étais jeune, donc j'ai une grande sensibilité à la cause que vous avez là, mais en même temps, je me dis comme donateur, il y a certains types peut-être d'ex-détenus avec lesquels je serais plus à l'aise de soutenir financièrement puis de les accompagner, puis il y a peut-être, dépendamment de la cause de détention, peut-être des causes avec lesquelles je serais plus frileux à savoir que mon argent s'en va les aider. Vous êtes là pas pour refaire une sentence, refaire un procès. Vous êtes là pour aider, s'assurer que ces gens-là aient un retour dans la vie juste et humaniste. Comment vous naviguez avec toutes ces réalités-là et aussi toutes ces perceptions-là, dont la mienne, là, qui n'est pas universelle, mais qui doit aussi résonner auprès de certains?
D'abord, il faut dire que nous, on ne fait pas de discrimination par rapport aux délits commis.
Ouais.
C'est aider la personne. Donc, on comprend très bien que le public réagit à certains types de crimes, a une certaine vision du phénomène du crime, mais malheureusement, le public est relativement très mal informé. Par exemple, est-ce que le public sait qu'au Canada, il y a un minimum d'1,100,000 adultes qui ont un casier judiciaire? C'est quand même beaucoup de monde.
Quand même.
Mais ça, les gens ne le savent pas. Parce que, je veux dire, les gens qui ont été judiciarisés n'ont pas tous fait de la prison. Ou s'ils en ont fait, ce n'est pas nécessairement des longues peines. Mais ils ont le statut de criminel. Ils ont un casier judiciaire avec les répercussions que ça a au niveau de l'emploi, au niveau de l'accès aux assurances, par exemple, etc. Alors, on comprend très bien que la population a un certain préjugé. Ce qu'on déplore le plus, c'est que les autorités ne fassent pas eux-mêmes la promotion de leurs bons coups. Par exemple, la commission des libérations conditionnelles. Ouais. Ce qu'on peut regarder, constater, c'est qu'ils libèrent un certain nombre de personnes. Mais ceux qui récidivent en libération conditionnelle, c'est l'exception. C'est une minorité. Par contre, c'est ça qui fait la manchette. C'est ça la nouvelle. Donc, les gens ont l'impression que les personnes libérées en libération conditionnelle vont récidiver. Alors qu'on sait que moins de temps ils passent en prison, moins il y a de risque de récidive. Alors, c'est ce genre d'information qu'on ne comprend pas que le système de justice lui-même n'en fasse pas la promotion. Pourquoi les commissions des libérations conditionnelles provinciales et fédérales ne mettent pas de l'avant leur réussite? C'est sûr qu'il y a des cas qui récidivent. On n'ira pas. C'est la réalité. Les décisions que prennent les êtres humains ne sont jamais parfaites. Tout le monde peut mal évaluer quelque chose et puis, bon, malheureusement, effectivement, il y a une récidive. Mais on ne prend pas de risque si on ne prend pas de décision. Je veux dire, de prendre son automobile et d'aller sur la route, on prend un risque parce qu'il peut y avoir un accident. C'est la même chose pour la libération conditionnelle. Les commissaires étudient les dossiers, se penchent dessus, rencontrent les agents de libération conditionnelle, font une évaluation, puis prennent une décision. Et des fois, effectivement, ils se trompent.
Ben oui.
Mais ça encore, ça devrait être mieux connu, mieux diffusé, et les meilleurs pour le faire, ce seraient les commissions des libérations conditionnelles, mais elles ne le font pas. C'est la question que je me pose, pourquoi?
Oui, une excellente question. Excellente question qui clairement aiderait à mieux comprendre, parce que déjà, ce que vous me parliez avec les gens qui ont un dossier criminel, puis on le sait, là, il y a des employeurs qui sont très rapides à demander à chaque futur employé si un dossier criminel, dans plein de processus, c'est validé, puis souvent, on ne pousse pas la réflexion plus loin, puis le crime n'a rien à voir avec le contexte de travail ou quoi que ce soit, mais il y a un biais, il y a une perception négative qui est là, certainement, qui n'aide pas à l'imaginaire ou la perception publique de la situation. Je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais vous n'êtes pas là... Vous n'êtes pas là à tout hasard. Vous avez quand même une feuille de route importante, impressionnante. Vous êtes auteur, expert en criminologie. Vous avez été professeur dans différentes universités, l'Université d'Ottawa, Montréal, Saint-Boniface. Je pense même que c'est quand vous étiez dans le coin de l'Université de Saint-Boniface que vous avez commencé à vous impliquer avec une autre société, John Howard, là, au Manitoba. C'est bien ça?
Oui, effectivement. Le président de l'époque de John Howard du Manitoba, c'était un ami qui vivait à Montréal puis qui a aussi... atterri à Winnipeg, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à m'impliquer dans la John Howard du Manitoba. Puis quand je suis revenu au Québec, je me suis évidemment intégré dans la John Howard du Québec.
Bien, on est très, très... En tout cas, moi, je suis très content de savoir que cette société-là, elle existe. Ce sont des gens qui méritent certainement votre appui, l'appui de la population pour contribuer... Et évidemment, avoir un retour qui fasse du sens à travers tout ça. Les gens qui vous écoutent, là, puis pour qui ça résonne, la société de John Howard, comment on peut vous aider? Comment on peut appuyer votre cause?
Bien, d'abord en s'informant, éventuellement, en allant sur le site de la John Howard. Évidemment, si quelqu'un peut nous faire un don, ça va être très apprécié. Mais c'est aussi de s'intéresser à ces personnes qui sortent de prison, de s'intéresser à la question du phénomène du crime, de mieux comprendre la dynamique dans laquelle fonctionne la société, pour être mieux à même aussi de répondre aux besoins de tout le monde. Au niveau préventif aussi, je veux dire, nous, on s'occupe des personnes qui ont été condamnées, mais on sait qu'il y a de la prévention qui peut être faite. Et on essaie d'en faire de la prévention par de l'éducation en faisant des conférences à gauche ou à droite. Donc, c'est en informant les gens. Puis les personnes qui sont intéressées par la question peuvent nous contacter éventuellement se proposer comme bénévole par rapport à une activité particulière. C'est, disons, à peu près ce que les gens peuvent faire pour l'instant. Il faut comprendre qu'on est encore assez modeste. On n'a pas des budgets à n'en plus finir. Donc, nos capacités de supporter le bénévolat sont aussi limitées.
Ben oui.
Mais ce que je peux dire, c'est que le contexte, l'atmosphère à la John Howard, c'est quelque chose qui est très porté sur l'humanisme, les rapports interpersonnels, le respect de tous et chacun. Et on est dans un climat de, je dirais, d'empathie.
Ben, une chance que vous êtes là. C'est un grand plaisir, Jean-Claude Bernheim, de vous recevoir à l'émission. Les gens qui veulent savoir plus, je les invite à se rendre sur votre site web qui est john-howard.qc.ca et ils vont trouver une foule d'informations, évidemment, toutes les informations pour vous contacter. Merci de faire ce que vous faites à la fois pour les ex-détenus, pour les personnes judiciarisées, mais aussi pour la société. Un grand plaisir.
Merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup.